Bonjour, général Pierre de Villiers. C'est votre quatrième ouvrage depuis votre démission de votre fonction.
Cinquième.
Alors, ça commence mal, vous voyez. Alors, ben, j'ai regardé par rapport à ici, mais il y a un orphelin. Oui. C'est votre cinquième ouvrage, donc, disais-je, depuis votre démission de votre, votre fonction de chef d'état-major de l'armée française, le 19 juillet 2017. Si j'évoque ce point, c'est que vous en parlez vous-même dans le prologue du présent ouvrage, pour le succès des armes de la France, puisque vous évoquez l'analyse que vous faisiez déjà dans votre premier ouvrage, Servir, publié chez le même éditeur, Fayard, donc le 8 novembre 2017. Le titre du livre dont nous allons parler, on le comprend, page 184, dans votre conclusion. C'est un extrait d'un texte très particulier, qui est toujours un moment lui-même, très particulier dans le règlement et le protocole militaire. C'est celui, dites-vous, de la cérémonie de passation de commandement. J'ai été frappé par un rituel que je trouve très fort, à la fois au plan humain et au plan institutionnel. Alors, je me permets de lire ce texte en précisant, comme vous l'écrivez, qu'il s'agit là d'une formule prononcée par l'autorité présidente. Je vous laisserai le soin peut-être de préciser. Voilà, là. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois, etc. Et on arrive à ce que vous avez retenu comme titre et le succès des armes de la France. Vous écrivez que cette formule incarne la volonté des armées françaises et vous ajoutez à titre personnel ce qui m'importera jusqu'à mon dernier souffle, c'est le succès des armes de la France. Première question que j'ai envie de poser, mon général, c'est il n'est pas assuré le succès des armes de la France ?
S'il était assuré, j'aurais pas repris ma plume. J'avais promis à ma femme de ne pas écrire un cinquième livre, et ça a nécessité une grande négociation. Et j'ai finalement décidé au printemps dernier de reprendre ma plume parce que précisément ce que j'avais pressenti en 2017, à savoir une rupture dans l'organisation de notre monde et une intensification de l'instabilité du monde, malheureusement, s'est produit. Et nous en arrivons à cette situation que nous connaissons aujourd'hui, où finalement les pays européens pourraient être, si l'on observe cela avec vérité et authenticité, les faibles du monde. Les forts attaquent les faibles, c'est un principe de l'humanité, et on voit ça dans notre histoire. C'est pour ça que j'ai repris ma plume. Et je me suis dit que si je ne le faisais pas, ce serait un manque de courage de ma part, sachant que nous avons devant nous des échéances électorales importantes. Et je voudrais, pour la première fois depuis des décennies, que dans la campagne électorale, le thème de la protection de la France et des Français soit en première ligne de cette campagne. Ça n'a jamais été le cas. Et je le voudrais parce que la situation l'exige. Alors, c'était une nécessité en 2017, c'est devenu une urgence en 2026. Et le domaine de la défense est un domaine plus technique qu'il n'y paraît et qui nécessite du travail de la part de nos responsables pour se faire une idée, une stratégie, une vision et ensuite déterminer cette vision en mode d'action, si je puis dire, un modèle d'armée. Tout ceci nécessite beaucoup de travail, de conviction, et je comprends qu'on parle de pouvoir d'achat, d'immigration, d'insécurité, mais je voudrais aussi qu'on parle de la protection des Français qui payent beaucoup d'impôts, de plus en plus, qui en ont marre et qui se sentent quelque part un peu vulnérables dans ce monde de plus en plus inquiétant. Voilà pourquoi j'ai repris ma plume.
Alors, l'autre raison, vous la donnez aussi, mais c'est, on est dans le même registre, hein, à la fin de votre introduction, hein, page 19, là aussi je vous cite, je souhaite dans ce livre convaincre nos dirigeants et surtout nos futurs dirigeants, c'est pas simplement dans le débat politique, c'est aussi aux futurs acteurs qu'il est prioritaire de donner à la France et à ses armées les moyens de ses ambitions. C'était une nécessité il y a 8 ans, vous venez de le dire, désormais c'est une urgence. Nous sommes à l'heure des choix, bien au-delà des 2 prochaines années, convaincre pour vaincre. Et vous dites, vous avez eu raison trop tôt. Vous dites c'est jamais très bon, mais vous dites c'est pas grave. Mais comme vous le dites, page 185, la priorité, c'est de ne pas avoir eu raison trop tard. Alors, votre livre, c'est pas du tout un bilan, c'est une sorte de dialogue entre vous, j'allais dire, le général qui prend les positions que l'on sait en 2017 de manière publique, et puis l'expert que vous êtes aussi et que vous êtes resté sur ces 8 années. Expliquez-nous ce risque, enfin, cette inquiétude que vous avez. La priorité, c'est de ne pas avoir eu raison trop tard.
Ouais, parce qu'on voit bien ce qui se passe. On est quand même très mal. Et au-delà des paroles, 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 rapports, 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 on en a marre. On veut des faits. Et aujourd'hui, les faits sont très faibles par rapport à la gravité de la situation. Et je pense qu'il y a urgence pour réarmer effectivement la France et les Français. Ça va pas bien à l'intérieur et ça va pas bien à l'extérieur. Et quand on regarde l'histoire, quand le terreau est là, il y a un moment ou un autre, une étincelle qui déclenche la guerre ou la rupture. Donc il est temps de réagir. En fait, on fait face à 2 lignes de conflictualité majeures. Ce que je vais vous dire maintenant, les mots sont les mêmes que ceux que j'utilisais depuis 2015. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est une surprise stratégique. Ce concept baroque inventé en 2017 pour finalement arriver à justifier l'injustifiable. Nous faisons face au terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés, les remplacer par la barbarie la plus extrême, érigée non pas en moyens, mais en fins. Des mouvements, des individus, et de manière transnationale, puisque c'est dans le monde entier. Et puis, simultanément, et c'est ça qui est dangereux, le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui cherchent à regagner leur influence perdue, qui réarment de 5 à 10% par an quand nous nous désarmons depuis la chute du mur de Berlin, en savourant les délices des dividendes de la paix, tout ça pour le modèle social. Donc, il y a un moment, il faut inverser les priorités, parce que la menace est là. Ces États-puissances font peser, évidemment, une pression sur le monde, dans plusieurs parties du monde. On le voit depuis quelques années. Ce n'est pas un hasard qu'en même temps, on ait tout. On a eu 7 octobre au Moyen-Orient. On a l'Ukraine à l'est de l'Europe. On a maintenant l'Iran. Tout vient en même temps. Pourquoi ? Parce que notre monde s'est réorganisé, finalement, en puissance régionale, chacun avec des stratégies de long terme, anciens empires, la Turquie, l'Empire ottoman, la Russie, la Grande Russie orthodoxe, la Chine, la route de la soie, les États-Unis, America First, l'Inde, la puissance démographique, l'Iran, pour les chiites, l'éternité, la même chose pour les sunnites avec l'Arabie saoudite, ces gens qui sont surarmés quand nous savourons le bien-être du capitalisme et du libre-échangisme mondial. Haute pression, basse pression, les forts attaquent les faibles. Et donc, le monde s'est réorganisé suivant un principe un peu bipolaire, avec d'un côté l'Occident, aligné derrière les États-Unis, qui nous abandonne, et c'est pas nouveau, moi je l'avais senti avec le président Obama, ils partent vers le Pacifique et vers la Chine, leur seul adversaire. Ça s'accélère avec le président Trump, évidemment. Et puis, de l'autre, donc aligné derrière les États-Unis qui nous abandonnent, les pays européens, donc le moins qu'on puisse dire, qui sont singulièrement désarmés, nous sommes la première puissance militaire, nous avons une belle armée avec des jeunes extraordinaires qui ne reculeront pas, mais qui n'ont pas les moyens de mener une guerre. Ils ont les moyens de faire des opérations de guerre. C'est pas la même chose. Le fameux conflit de haute intensité, c'est la guerre. C'est comme les sourds, il n'y a plus de sourds, il n'y a que des malentendants. Bon, OK, mais enfin, le conflit de haute intensité, c'est la guerre. Voilà. Et donc, la guerre est de retour. Et de l'autre côté, vous avez un conglomérat capable de s'unir sur un seul facteur, la haine du grand Satan américain et de l'Occident. Les pays que j'ai nommés. Et au milieu de tout ça, il y a le terrorisme islamiste radical, avec les sunnites et les chiites. Alors, on a eu les sunnites pendant des décennies, Et je pense que là, dans les semaines qui viennent, on va avoir la joie du retour des chiites, comme en 86. Et on va le sentir passer, croyez-moi. Parce que les faibles sont toujours attaqués, et nous sommes faibles. Voilà la situation. Vous rajoutez à ça deux facteurs qui conditionneront l'avenir du monde dans les 10 ans qui viennent. Le premier facteur, les migrations massives. Un seul chiffre, l'Afrique, 1,3 milliard aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050, dont plus de la moitié auront moins de 25 ans. Et le dérèglement climatique, qui d'ailleurs contribue à ces processus migratoires, dérèglement climatique qui joue sur la faune, la flore, l'eau, l'air, et dont on voit les conséquences. Vous avez un monde déstructuré, déstabilisé, les stabilisateurs automatiques ne fonctionnent plus. Ces organisations internationales qui avaient été mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et nous assistons à cette dérégulation, ce nouveau monde qui est apparu en rupture avec le précédent. Et moi, j'appelle dans mon livre à un modèle d'armée de rupture.
Alors on va y venir, parce que là, on balaye tout.
Voilà.
Et vous venez d'évoquer votre chapitre 4 en particulier, c'est qui est l'ennemi, hein, avec ces deux cibles, en quelque sorte, hein, que vous désignez. Votre livre, donc, il est organisé en deux grandes parties. La première, c'est une question, hein, pouvons-nous encore gagner la guerre ? Avec deux premiers chapitres dans cette partie qui sont aussi des questions vers la guerre, point d'interrogation. On va y venir parce que c'est le titre aussi d'un ouvrage, d'un autre auteur, et qui est l'ennemi. Puis la deuxième partie, c'est en quelque sorte, si je vous ai bien lu, la réponse à la première partie, l'urgence militaire. C'est ce que vous venez de dire, mon général, à savoir que il y a vraiment, comment on dit, le feu. Alors, vers la guerre, avec un point d'interrogation, c'est le titre d'un livre de celui qui était alors ministre des Armées, publié à l'été 24, Sébastien Lecornu. Vous en dites plutôt du bien, à la fois du livre.
Pas plutôt.
Non, alors, mais je faisais une...
Pas du personnage, du livre.
Du livre. D'accord. Voilà. C'est peut-être ça mon plutôt. Hein. C'était sur le livre et pas le personnage. Et vous saluez son analyse en disant qu'elle est en contradiction complète avec beaucoup d'analyses rassurantes de nombreux experts géostratégiques. C'est page 23, j'ai bien repris exactement vos termes. Ça m'a donné l'idée, en tous les cas, une question, ça.
Moi, maintenant, hein. Moi, maintenant. Les mêmes qui nous disaient « ce monde n'est pas plus dangereux, c'est pas vrai, il y avait autant de guerres il y a 20 ans, et il n'y a pas à s'inquiéter, arrêtez les Cassandres, etc., il y en a marre, c'est pour faire peur aux Français, etc. » Les mêmes sont plus prudents sur les plateaux de télé.
Ma question, elle est, vous qui connaissez bien ce milieu, qui est finalement quand même un assez petit milieu, parce que c'est une communauté, les experts en géostratégie, vous n'êtes pas 100 000. Hein, bon. C'est quoi la crise de l'expertise ?
Alors, il y a les experts praticiens,
ouais,
et il y a les experts intellectuels.
Bon, alors d'accord.
Moi, je suis un expert praticien.
Vous êtes aussi un intellectuel.
C'est plus intéressant, à mon avis, que les experts intellectuels.
Bon.
Que les experts, quand même, ces dernières années, se sont parfois trompés, pour ne pas dire toujours. Donc, il faut s'en méfier.
Comment vous expliquez ?
Moi, je suis un praticien. Tous les dictateurs, là,
comment vous expliquez
dont on
ça
parle, je les ai tous rencontrés les yeux dans les yeux.
Mon général.
L'avantage des dictateurs, c'est qu'ils durent plus longtemps que
c'est vrai.
Nos responsables. Ils sont toujours là.
Comment vous expliquez cette crise de l'expertise ?
Mais parce que, à Paris, parce que beaucoup d'experts sont à Paris, quand même. Aujourd'hui, il faut être à Paris et parler en anglais si possible.
On sent quand même la guerre de Vendée qui revient là, très vite. Là.
Ben, moi, j'ai fait mes études à Fontenay-le-Comte, en Vendée. On m'avait dit, tu seras le compte-service quand même avec les profs vendéens par rapport à Paris. Quand tu vas te confronter aux gens de Paris, tu vas voir. Bon, je n'ai pas été impressionné. Hein. Franchement, parce qu'il y a une qualité extraordinaire à Paris, intellectuel, etc. Je ne la nie pas. Mais parfois, un peu de bon sens, ça résout beaucoup de problèmes. Vous voyez ? Et moi, je préfère le bon sens à l'intellectualisme. Je me méfie de l'intelligence. Ma définition de l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. C'est celle que je préfère en philosophie. Et c'est bien de lire des rapports toute la nuit, d'en faire une synthèse, tout ça. C'est parfait. Mais ce n'est pas ce qui fait prendre forcément les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, moi, je préfère les prendre avec du bon sens, de la rationalité, du pragmatisme. Moi, je suis un expert praticien. Les experts se sont tous trompés pour une raison. D'abord, c'est que c'est rassurant. Il ne faut pas inquiéter les Français. Il ne faut jamais inquiéter les Français. Quand vous arrivez et que vous n'êtes pas dans le troupeau qui dit « Tout va bien, Madame la Marquise », déjà, vous êtes un Cassandre. Ensuite, ils se sont trompés parce que beaucoup de gens à Paris ne croient plus dans la France. La France a un petit PIB, la France est en train de se casser la gueule, les nostalgiques de la France d'antan, etc. Quand vous parlez de la France, vous êtes un dangereux rétrograde extrémiste de droite. Ben moi, je parle de la France et je suis fier. J'y ai donné 43 ans de ma vie pour la France jusqu'à y laisser ma peau si nécessaire et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. Donc, les experts, ils aiment bien la mondialisation heureuse. Ils aiment bien l'Europe fédérale. Vous voyez, ils n'aiment pas la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est le retour à la proximité, c'est le retour à la nation, c'est le retour à l'interétatique. Donc, les experts sont un peu perturbés. Et puis, alors, les experts, ils aiment le droit. On était dans la force du droit. Aujourd'hui, malheureusement, on peut le regretter. Je le regrette, mais on ne peut pas le contester.
C'est plutôt le droit de la
force. C'est le droit de la force. C'est-à-dire que pour aller bombarder en Iran, le président Trump n'a pas attendu une quelconque résolution de l'ONU. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et regardez ce qui se passe. Tous les jours, le droit international est bafoué. On a changé d'époque. Et c'est durable. C'est comme ça. C'est une nouvelle époque. Et ce n'est pas le nouveau monde que nous avions prévu, qui nous avait été annoncé. L'Europe, c'est la paix, etc. Et l'Europe fédérale, qu'ils veulent construire, est un échec cuisant. On n'est même pas capable de faire une coopération pour un bateau commun, un avion commun, un drone commun.
Un char
commun.
Vous, tu connaissais les chars.
Je me désole. L'Europe qui fonctionnera, ça sera l'Europe de la coopération interétatique à géométrie variable, qui respecte les logiques de culture nationale. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça que les experts se sont trompés, parce qu'ils étaient sur des fausses pistes. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut être courageux quand vous n'êtes pas dans le troupeau de la meute. Les médias chassent en meute, et il faut être dans la bonne meute, c'est sûr. Sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que les faits sont têtus, et que le peuple de France est une vieille démocratie, et le peuple de France est en train de réagir. Et il va réagir violemment.
Alors, avant,
c'est ce qui est en train de se passer.
Avant qu'on parle d'aujourd'hui et de demain, dans votre livre, au moins dans le premier chapitre, vous expliquez que le monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, a connu deux ruptures stratégiques. Le 9 novembre 1989 et le 11 septembre 2001. Je voudrais que vous nous expliquiez comment et selon vous, qu'est-ce qui a basculé à ce moment-là, même si ce sont des dates qui sont forcément, on va revenir à l'importance de l'histoire, sont forcément des processus ou le terme de processus historique. C'est quoi ces deux ruptures stratégiques en général?
Alors, on a connu, et j'ai connu, moi, dans ma carrière militaire, de grandes périodes avant et après la chute du mur. La fin de la seconde guerre.
Racontez-nous, pardon, je vous coupe. Racontez-nous cet échange avec Gerasimov.
Alors,
ça, c'est assez passionnant.
Effectivement, nous étions le général Gerasimov, qui est chef d'état-major des armées russes, aujourd'hui encore. Nous étions numéro 2 ensemble. Puis lui est passé numéro 1 plus vite que moi en 2011 et moi en 2014. Et donc, nous nous connaissons bien. Et nos relations sont, comment dire, à la fois cordial, mais de rapport de force. Il m'est arrivé de quitter la salle en lui disant qu'il était un gros, et je me suis barré. Il a compris que j'étais français.
Ça, c'est pas dans le bouquin. Hein.
C'est pas dans le livre.
Non, merci.
Enfin bon, faut raconter quelques anecdotes. Les miennes sont vraies en plus. Hein. Donc,
alors, qu'est-ce que vous découvrez en commun avec Gerasimov? Dites-nous ça.
Alors, j'étais en vacances à Moscou en 2011 et avec femme et enfant, donc j'avais pas du tout l'intention d'aller le voir. Il était numéro 2. Ils sont bien renseignés, c'est les Russes. Les Israéliens, les Russes, les Chinois, les Américains sont des professionnels du renseignement. Nous, nous sommes quelque part un peu des naïfs. Mais ça fait partie du génie français. Mais enfin, il faudrait qu'on progresse rapidement. Et donc, me voilà à Moscou. Et là, on m'appelle, on me dit, l'attaché de défense me prévient, le général Gerasimov voudrait vous rencontrer. Donc, pas populaire. Je suis obligé d'annuler une activité familiale pour aller voir le général Gerasimov dans son bureau. Et là, ça se passe pas bien du tout. Effectivement, il m'emmerde sur l'OTAN qui braque ses missiles sur lui, etc. Je lui dis, mais moi, je suis pas de l'OTAN, je suis français. Et en plus, je suis en vacances et c'est un entretien de courtoisie. La courtoisie, c'est important pour la France. La courtoisie, c'est notre culture. Je lui explique d'où on vient. Bon. Puissance de persuasion limitée, c'est lui qui a pacifié la Tchétchénie. Donc, je vous fais pas de détails. Et donc, je quitte la pièce. Il me raccompagne dans l'escalier en courant derrière. Et arrivé dans la rue, il me dit : il y a une méprise, il faut remonter. Je vais t'expliquer. Donc, je remonte. Nous avons parlé de football.
Ah, ça, c'est votre passion, ça.
Pour détendre l'atmosphère. Il est passionné de football également.
Oui.
Donc, Blocknine, etc.
Yachine.
Yachine, enfin, les grands joueurs russes. Il m'a parlé de Raymond Kopa, Piantoni, etc. Ça a détendu l'atmosphère. Ensuite, nous avons parlé de nos carrières respectives et je me suis aperçu que nous étions chefs de peloton de chars. Donc, nous commandions chacun quatre chars en 78-80 et nous préparions la guerre l'un contre l'autre. Lui avec des T-62 et moi avec des Amix 30. Et donc, nous avons discuté sur la façon dont on travaillait à l'époque pour gagner la guerre, puisque nous étions deux ennemis face à face. Et il m'a dit, nous aurions gagné parce que, par la force de notre masse, nous vous aurions écrasé. Et je lui ai dit, vous auriez perdu, nous aurions gagné parce que vous êtes incapable de manœuvrer le régiment de fusiliers motorisés en marche à l'ennemi. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Tu aurais pris la raclée. Bon, il n'a pas aimé, mais enfin, je lui ai quand même dit. Et ce qui s'est passé en Ukraine montre que j'avais probablement raison. Les colonnes de chars alignées qui se sont fait dézinguer par les armes anti-chars ukrainiennes, certaines d'ailleurs fournies par les Occidentaux, ça marche plus aujourd'hui. Et ils ont changé complètement de stratégie après leur échec initial. Et ils ont adapté, même si, et les Ukrainiens également, puisque les Ukrainiens avaient les mêmes modes d'action. Donc il est toujours en place, le général Gerasimov, et préside aux destinées militaires de la Russie. C'est intéressant de connaître sa psychologie. Je l'ai revu ensuite comme chef d'état-major. Je suis allé à Moscou, il m'a accueilli. Et ensuite, je l'ai appelé au téléphone plusieurs fois. Tu te souviens du petit général français qui a repris son manteau ? Donc, fais gaffe à ce que je vais te dire.
Ça, c'est la première rupture. C'est le 9 novembre 89, chute du rideau de fer et donc précisément du mur de Berlin. La deuxième, c'est le 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui se passe ? Vous racontez à quel endroit vous étiez à ce moment-là. Voilà. Vous n'étiez pas encore chef d'état-major des armées. Qu'est-ce qui a changé à partir de 2001 ?
Donc, nous préparions la guerre contre le pacte de Varsovie, qui était censé arriver par la trouée de Fulda. Mmh. Et c'était l'armée, la nation en armes, l'armée d'Appelé. Moi, j'ai toujours connu l'armée d'Appelé pendant cette période-là. Des Appelés qui faisaient un an puis 10 mois. Moi, j'étais au moment de en 78-80 à Agno, dans le 2e régiment de dragons, et j'ai gravi les échelons en différentes. Et puis en 89, le mur de Berlin est tombé, et là ça a tout changé parce que nous avions plus d'ennemis. Notre ennemi s'était liquéfié, et donc les dividendes de la paix, et là on a commencé à avoir les saignées répété pendant des décennies sur nos armées, armée de l'air, marine et armée de terre, suppression de régiments, de bateaux, de bases aériennes, étendards roulés, j'en passe et des meilleurs. Et là, ça a duré jusqu'en 2001. 2001, enfin, au passage, en 95, armée de métier.
Oui, on va y revenir parce que vous êtes donc contre la suppression du service
national. Armée de métier, j'étais à l'état-major à ce moment-là, au moment où se préparaient les décisions. J'étais lieutenant-colonel et j'ai courageusement écrit un papier que malheureusement je n'ai pas retrouvé parce que j'ai déménagé maintes fois depuis et je l'ai perdu, pour dire pourquoi j'étais contre l'armée de métier. En tout cas, j'étais pour la professionnalisation des armées parce que c'était indubitable, indéniable, mais j'étais pour le maintien d'un service national, garçon-fille, universel et égalitaire, puisque sur les garçons, en gros, il y en avait 50% qui le faisaient plus. Il fallait faire une réforme profonde. Donc, 2001, j'étais à l'époque crapahuteur de moquette à la direction des affaires financières. Je venais d'arriver, donc je faisais des tableaux de chiffres. Bac philo, sincère lettres, casting parfait. J'ai jamais été intéressé par l'argent et on m'a mis dans les finances publiques. Et un matin, panique à bord dans les couloirs, je vois ça courait partout, les deux tours et l'apparition du terrorisme de masse. Ça, c'est le deuxième virage, parce que ce terrorisme, depuis, ne nous a jamais quittés dans le monde et il ne va pas nous quitter d'ici tôt, croyez-moi, parce qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. En plus, ils ont la puissance démographique que nous n'avons plus. Ils ont le complexe des pays du Sud. Il y a tout un tas de facteurs qui s'agrègent dans cette menace terroriste qui nous a frappés depuis en France. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est précisément la troisième rupture stratégique auquel nous venons d'assister. Nous sommes en train d'assister, qui est cette réapparition du monde bipolaire que j'évoquais, et avec cette alliance de circonstances contre les Américains, le grand Satan, et puis cette bascule des États-Unis quittant l'Europe vers la Chine, vers la mer de Chine, vers le Pacifique. Et des Européens qui n'ont pas senti le coup venir, empêtrés dans leurs problèmes d'élection en élection, et qui se réveillent. Premier réveil, l'Ukraine, il y a 4 ans. Deuxième réveil, tout ce qui se passe depuis un an, là. Mais
avec l'arrivée, le retour de Trump au pouvoir.
Retour de Trump au pouvoir, et puis tout ce qui se passe depuis, effectivement, un an. Donc, réveil brutal, et comme en 70, en 14 et en 39, trois cas complètement différents historiquement, mais qui ont quand même un point commun à l'époque, je répète, en 70, en 14 et en 39, nous étions en crise politique, en crise économique, en crise sociale, en crise financière, nous étions endettés, nous n'avons pas pu réarmer et nous avons eu la défaite. Nous sommes dans cette situation de la pré-défaite, parce que nous sommes incapables, dans l'incapacité de réarmer, puisque nous n'avons pas les moyens financiers. Nous sommes endettés jusqu'au cou. Alors, un jour, j'ai dit ruiné, on m'a dit on n'est pas ruiné. Bon, OK, 3500 milliards de dettes, 115% du PIB. Les plus grands économistes disent que ça va mal finir. Et comment faire pour réarmer? Où trouver l'argent? C'est le problème auquel nous sommes confrontés. Alors là, on a eu 6,7 milliards. Mais c'est une entourloupe, encore une fois. Parce qu'on ne pourra pas les dépenser. C'est pas vrai. Ils viennent d'être décidés, là, mi-février. Mais c'est très, très long, le processus d'engagement. Et comme Bercy cherche à gagner de l'argent partout, vous inquiétez pas, ils seront pas engagés. Il y aura 3-4 milliards d'engagés maximum. Et c'est pas sûr. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a déjà 8 milliards de dettes, 8 milliards de reports de charges. Donc nous sommes dans une situation extrêmement délicate pour réarmer. C'est ça la question. Il faudra être très courageux pour prendre les mesures qui permettront de désendetter notre pays pour pouvoir réarmer, pour pouvoir redresser le régalien défense, sécurité, justice. C'est ce qu'attendent les Français. Ça veut dire qu'il faudra réformer le modèle social, réformer l'État, remettre la France au travail. Bon courage, voilà un beau programme politique.
Puisque vous parliez d'économie, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais vous citez Keynes. Hein, je rappelle, c'est lui qui a inspiré, entre autres, le fameux New Deal à Roosevelt. Et Keynes dit ceci, c'est la citation que vous reprenez, « L'inévitable n'arrive jamais, l'incertain toujours. Je me disais, en quoi est-ce que la stratégie militaire doit prendre cette réflexion en considération? Parce que, en quoi d'ailleurs est-ce qu'elle est juste? Parce que vous parliez de 70, de 14 ou de 39. On a bien vu ce qu'on appelle la montée des périls, les alliances en cascade, d'une certaine façon, le chemin à la guerre, même avant l'attentat de Sarajevo le 28 juin 14, il est tracé pour que ce qui va devenir la Première Guerre mondiale éclate. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu monter les périls entre 33 et 39. Et c'est inévitable, là, il est bien arrivé quand même.
Oui, mais on l'a vu, mais on n'a rien fait. Voilà. Il ne manque pas un bouton de guêtre. Et on a vu ce que ça donnait. Le chef militaire de l'époque disait que tout allait bien.
Sauf.
Tout va bien, Madame la Marquise.
Sauf deux ou trois qui, effectivement, écrivaient des choses.
J'ai dit un jour en audition parlementaire, je ne serai pas le Gamelin du 21e siècle, je ne regrette pas.
Oui, voilà. vous avez même dit, je ne me laisserai pas baiser, vous avez dit.
Oui, mais bon, voilà, écoutez, il y a un moment, il faut dire les choses. On est payé pour dire les choses quand on est aux fonctionnaires. On n'est pas des lavettes et on n'est pas des courtisans. Alors, ce n'est pas la peine d'être responsable. Il faut dire la vérité. Puis après, les chefs décident. Non, aujourd'hui, il faut penser l'impensable. L'incertain, c'est évident, on y est. Il faut penser l'impensable. Je ne sais pas quelle sera l'étincelle. C'est en cela que je dis l'incertain. Mais je sais que nous avons un terreau sur lequel va arriver une rupture, ou plusieurs ruptures. Terreau à l'intérieur du pays, terreau à l'extérieur. Donc, quand vous dites « on voyait les périls », je me demande toujours comment ces gens-là n'ont pas réussi à arrêter la mécanique. Mais je me dis, aujourd'hui, on en est là, c'est la même chose. Peggy disait cette phrase magnifique. Il faut dire ce que l'on voit, et plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Il faut que nos responsables changent de lunettes, vraiment. Et alors, il paraît que les montures vont être bloquées par dans le golfe, là, tout est bloqué. Les montures de lunettes viennent de Chine à 90%, donc il faudra peut-être attendre, mais enfin, il faut changer de lunettes quand même. Il faut voir ce que l'on voit. La réalité, elle est là. Donc moi, je ne suis pas là pour apporter des mauvaises nouvelles. Je suis là pour alerter et pour dire ce que je crois être la vérité. Et je ne comprends pas que dans les propos de Popote, tout le monde me dit « c'est formidable ton livre », mais que dans les décisions ensuite au Parlement ou ailleurs, tout le monde ferme sa gueule. Voilà. Parce que c'est ça la réalité, pour rester au pouvoir et conserver son poste.
Alors, il y a une...
Ce que je dis, c'est ce que pensent 90% des Français.
Il faut saluer votre sens de l'anticipation, puisque au début du livre, c'est page 37, vous avez une phrase qui est évidemment d'une actualité totale, je veux dire surtout depuis samedi. L'action militaire en soi ne suffit pas. La France l'avait déjà expérimenté en Libye en 2012. Avant de déboulonner un tyran, il faut se demander par qui on pourra le remplacer. Et vous dites, ce qui est essentiel, c'est non seulement de gagner la guerre, on y arrive, mais beaucoup plus compliqué de gagner la paix.
Oui, ben on a perdu toutes les paix pratiquement depuis 30 ans.
Vous dites même, vous inversez la phrase du général de Gaulle. Oui. La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Vous dites, on a gagné beaucoup de batailles, mais on a perdu beaucoup de guerres.
Ben oui, oui, parce qu'on a des tacticiens, mais on n'a pas de stratèges. C'est assez simple à comprendre. Et moi, j'appelle des stratèges de mes voeux. Mais enfin, le système actuel ne fabrique pas beaucoup de stratèges, parce que on se soucie de la dépêche AFP de l'après-midi et en aucun cas de la France à 10 ans, parce que ça paye pas. Non, non, je crois que on n'a plus d'effet majeur. Nous, dans l'armée, on appelle ça l'effet majeur. On n'a plus de vision. On gère les affaires. On fait de la tactique. On est dans le comment. On n'est plus dans le quoi ou le pourquoi. C'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Et quand on parle de ces sujets graves, il faut savoir quelle stratégie on a. Or, aujourd'hui, la rare stratégie que j'ai discernée, c'est construire une Europe fédérale qui ne veut pas dire son nom parce qu'on avance masqué, en supprimant les nations. C'est une mauvaise stratégie. Ça sera une stratégie de l'échec. C'est une stratégie de l'échec. L'Europe de la paix, on voit où ça nous conduit. L'Europe, c'est la paix. Oui, ok. C'est le capitalisme, l'euro, la finance qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. C'est ça, l'Europe que l'on construit aujourd'hui. Alors, les peuples sont en train de se réveiller, mais bon, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Mais moi, je crois au bon sens populaire et la jeune génération a soif de quelque chose de grand, même si il y a des jeunesses, même si à certains égards, la jeunesse est agaçante avec ses baskets, son jean et son portable à la main. Mais vous verrez, vous serez surpris par la jeunesse et c'est ce qui me rend optimiste. Mais cette jeunesse va traverser une période difficile que nous avons devant nous. Je crois que nous n'y échapperons pas parce que c'est l'histoire de France et l'histoire du monde. Nous venons d'avoir 80 ans de paix. 80 ans de paix, c'est énorme dans l'histoire du monde. Et l'homme est un loup pour l'homme. Nous sommes en train de le réaliser. Alors là, on parle de stratégie. Ben voilà, on y est. On a vu ce que ça donnait en Syrie. On a vu ce que ça donnait en Libye, en Afghanistan, en Afrique, partout. Parce qu'on a oublié qu'avec la sécurité, il faut apporter le développement. Pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Et il faut apporter la confiance, sinon il rebascule de l'autre côté. J'avais cette conversation, j'avais des tête-à-tête, c'était le dispositif qu'on avait mis en place avec le président quand j'avais pris mes fonctions en 2014, le président Hollande. À l'issue de mon premier entretien avec lui, il me dit « c'était génial ». Vous êtes le premier qui me parle comme ça, il faut qu'on se voit tous les 8 jours. Alors je lui dis tous les 8 jours, ça va peut-être être compliqué. Puis il y a le ministre, donc tous les 15 jours. Et on s'est revus tous les 15 jours en tête à tête pendant 3 quarts d'heure avec un ordre du jour et on se parlait franchement. Eh bien, souvent il me posait la question, par exemple sur la Syrie, alors comment est-ce qu'on va reprendre Raqqa ? Alors, je disais, je vous ferai des propositions, mais qu'est-ce que vous voulez faire après quand vous avez repris Raqqa ? Quel est votre effet majeur ? Quelle est votre stratégie ? Nous, on est déformés, les militaires, on est des stratèges. On voit loin un programme d'armement, c'est 50 ans. Il faut 10 ans pour le construire et 50 ans de vie. Quand je parlais dissuasion nucléaire au président, c'était 2050, 2060. Il me dit, vous êtes le seul qui me parle comme ça. Bon. Donc, on a perdu de vue cette vision du temps. C'est l'Afghan qui m'avait dit un jour, vous avez la montre, nous avons le temps. Un Malek afghan, un maire.
Un maire, c'est ce que vous dites dans le livre.
Extraordinaire. Alors, phrase.
Puisque, pardon.
Hey, on a eu la montre, hey, ils ont eu le temps. On l'a dans le baba, ils ont gagné. Hey, ils sont revenus, c'est pire qu'avant. Et nous, ben, on a perdu. Et ils s'accrochaient aux roues de l'avion, nos partisans. Là, je l'ai là, je peux vous dire. Hein.
Mon général, vous faites état de ce rendez-vous 2 fois par mois avec François Hollande. Dans le livre, vous dites que vous avez travaillé, vous avez connu 4 chefs d'État en exercice. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, à l'époque, vous étiez numéro 2 des armées françaises, vous remplaciez à des réunions particulières des conseils de défense le CEMA. Vous êtes devenu CEMA avec François Hollande, et puis vous avez connu pas longtemps, mais Emmanuel Macron. Vous dites tous les 4, me posez des questions, on a toujours la même question, qui peut nous attaquer. Et en fait, vous dites, cette question, c'est comme on dit, vous ne dites pas comme ça, mais une leading question, parce qu'en fait, la réponse, il l'avait dans la tête, c'est, en gros, ça voulait dire, mais qui voulez-vous qui nous attaque, mon général ? Expliquez-nous ce moment, parce que ça dit bien des choses sur l'évaluation et la mesure du danger.
Vous avez totalement raison, c'est très important. Déjà, j'ai eu l'opportunité de connaître les 4 derniers présidents en Conseil de défense, qui est un des moments les plus solennels de la République. J'ai vu les 4 présider un Conseil de défense. Et en Conseil de défense, la principale question qu'on pose, c'est qui va nous attaquer, mon général. Et il y avait toujours un certain scepticisme de la part de cette question, sur cette question, en disant, bon, OK, mais bon, il n'y a pas le feu au lac, hein. Donc, les militaires, il y en a même un qui m'a dit, un haut responsable, comme on dit aujourd'hui, pas un président, un haut responsable de l'entourage, qui m'a dit, les militaires, ils veulent toujours plus de moyens, et quand ils les ont, ils veulent s'en servir. Sous-entendu, ils déclenchent les guerres. Je lui ai demandé qui il était, pour avoir cette appréciation, lui, le crapahuteur de moquette, parce que lui, il décidait de la guerre, mais moi, je la faisais.
Il vous a répondu, je suis secrétaire général de l'Élysée.
Il n'a pas aimé.
Bon,
il n'a pas aimé.
Non, mais alors, cette histoire-là de qui peut nous attaquer, ça dit des choses.
Alors, En fait, il y a, dans mon livre, pour répondre à cette question, j'ai un chapitre sur lequel je dis les trois lignes Maginot. Il y avait toujours trois arguments qui sortaient quand il s'agissait d'augmenter le modèle d'armée, l'effort de défense, etc. Mon général, qui va nous attaquer? Nous avons la dissuasion nucléaire, donc nous sommes protégés.
Avancée ou pas?
Certes. À l'époque, elle n'était pas avancée.
Maintenant, elle est très avancée.
Oui, bah là, on est bien avancé avec ça. Donc, la dissuasion nucléaire non avancée, me disait-il. Oui, monsieur le président, mais la dissuasion a fonctionné. Nous avons gagné contre le pacte de Varsovie. Mais parce qu'elle était accompagnée, aujourd'hui on dit épaulée, c'est le terme qui a été utilisé, que je trouve pas mal par le président, l'épaulement.
Lundi dernier, oui.
Par les forces conventionnelles, du même niveau de suffisance en termes de capacité, parce que certains conflits resteront conventionnels. Regardez, les Russes ont la puissance nucléaire, ils attaquent au plan conventionnel l'Ukraine. Et là, je sentais que j'étais trop agressif ou déviant. Donc, deuxième argument. Oui, mais mon général, nous serons en coalition. Ne me dites pas que nous serons tout seuls. Certes, demandez aux Ukrainiens ce que c'est que la coalition. Un État est d'abord là pour défendre l'intégrité de son territoire, la terre des pères, la patrie et la nation, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire, sur des valeurs communes. C'est la première mission d'un État. Et il compte après sur les autres. Et en plus, je trouve pas banal que ces gens posent cette question alors qu'ils construisent une Europe qui est un échec au plan de la coopération en matière de défense. La défense européenne piétine, elle n'avance pas, parce que c'est pas ça qu'il faut construire. C'est la défense de l'Europe, en respectant les États. Oui, mais, mon général...
Troisième ligne, imaginons.
Nous aurons le temps de remonter en puissance. Me dites pas qu'on va se faire envahir du jour au lendemain. Eh bien, demandez aux Ukrainiens comment ça se passe. Parce que par définition, quelqu'un qui veut nous attaquer, vous croyez qu'il envoie des signaux d'alerte? La surprise, c'est un principe stratégique, celle qu'on impose et pas celle qu'on subit. Et c'est celle qu'on va subir. Et aujourd'hui, cette troisième ligne Maginot, elle a la peau dure. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne croient pas qu'on peut se faire attaquer sur notre sol. Alors, dans mon livre, je cite, ça ne vous a pas échappé sûrement, un exemple d'attaque sur notre sol qu'on n'a pas encore eu. À force de chatouiller les doigts de pied des dictateurs, il y en a bien un qui, un jour, va nous envoyer un missile de croisière pour nous dire hey, « Hé, coucou, je rentre dans ta niche, toi. T'es faible. T'es pas du même niveau que nous. » Missile de croisière, vous vous lèverez un matin, ça aura lieu la nuit, il y aura 50 morts, 300 blessés dans telle ou telle ville de France. On ne sera même pas capable de savoir qui a tiré, parce qu'on n'a pas d'alerte avancée, et on ne sera même pas capable de l'arrêter, parce qu'on n'a pas de défense aérienne suffisante. Cet exemple, le président l'a pris dans ses voeux. Ça vous a peut-être échappé, en disant « c'est pas normal, on ne doit pas être dans cette situation ». Donc je me réjouis de voir qu'il a reçu mon livre. D'ailleurs, il m'a écrit un mot très gentil, j'y suis très sensible. Et je suis très sensible à ce qu'ils reprennent ce qu'il y a dedans. Mais enfin, bon, c'était il y a 8 ans et demi, ma démission. Donc, on est menacé sur notre sol, évidemment. Mais enfin, comment peut-on être encore assez naïf pour ne pas le croire? Mais regardez l'état de notre pays entre la simple délinquance, le narcotrafic. Eux, ils tirent à balles réelles. Hein. Ça va être trop chaude. Hein. Puis là, c'est la grosse artillerie, ça va y aller. Hein. Le terrorisme islamiste, sunnite, maintenant, bientôt chiite. L'état du pays. Qu'est-ce qui se passerait si nous étions dans la situation des Ukrainiens aujourd'hui en France? C'est une question qu'il faut se poser. On me répond, la question n'est pas à l'ordre du jour, il faut se poser les bonnes questions. Certes. Ok. D'accord, on en reparlera. Évidemment qu'il faut... doper ce service militaire, qui est une bonne mesure qui a été annoncée. Puis d'abord, ça arrête le service national universel, qui était vraiment une fausse bonne idée. Les colonies de vacances...
Vous écrivez dans le...
Ça nous a coûté cher, en plus.
Dans le livre, sur cette, non pas suppression, comme on dit à tort, mais suspension du service national, donc en 96, hein, 8 mois après qu'il ait été élu à l'Élysée par Jacques Chirac, vous dites que c'est une double faute, cette décision. Et en particulier, en vous lisant bien, vous dites que ça a eu des effets sur la cohésion nationale. et sur ce qu'on appelle globalement l'esprit de défense, ajouté au fait que vous dites on a coupé le fil de la mémoire, soit par insouciance ou amnésie. Un pays qui perd la mémoire, perd son identité et se fond dans l'oubli, le roman n'est plus national. Le service national, il servait aussi à créer l'esprit national.
Mais bien sûr, parce que au bout d'un mois, il y avait la présentation au drapeau. C'était le drapeau qui passait, honneur et patrie, bleu, blanc, rouge, avec la garde au drapeau. C'était la nuée de tous ceux qui nous avaient précédés, qui étaient morts pour la France et qui nous permettaient de vivre libre. Et ils le réalisaient charnellement. Et ça faisait suite à ce qu'on appelait les classes à l'époque. Non, je crois qu'il fallait professionnaliser les armées, et je pense que c'était une bonne décision du président Chirac sur ce plan, il n'y avait pas d'autre solution, mais il fallait maintenir un impôt collectif commun, pour le bien commun, où on apprenait à notre jeunesse pourquoi c'était un honneur d'être français. Voilà, et on a oublié de le faire, on a fait venir beaucoup de populations de l'extérieur, et beaucoup de ces gens-là, ils sont d'abord de l'extérieur avant d'être de l'intérieur, et ça nous pose de grosses difficultés maintenant. Et en gros, sur les 800 000 jeunes d'une classe d'âge, il y a 80 à 100 000 jeunes qui ne répondent à aucun dispositif social et éducatif. Ils sont en dehors de la nation.
Alors, vous dites que vous allez voir les caïds dans les quartiers. Vous le dites dans le livre. Je ne pense pas que ce soit pour votre consommation personnelle. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Mais
pas vraiment.
Bon, mais
vous savez, je suis surveillé chez moi. J'ai une femme et 6 enfants.
Hein. Bon, voilà. Alors, c'est très intéressant l'échange que vous avez avec eux, parce que ils vous posent la question. Vous dites certains ont un cahier de champ très bien rempli. Bon, ça veut dire en fait qu'ils ont un casier judiciaire sérieux. Et vous leur dites qu'est-ce que vous attendez de moi?
Oui, mais je me demande pourquoi ils viennent me voir déjà.
C'est pas pour organiser la guerre des gangs.
Mais. Et alors ils me disent mon général, on vous respecte. Déjà ils m'appellent mon général. Pas bonjour monsieur. Voilà. Que maintenant dans la rue les gens m'appellent monsieur, et ils savent plus comment bredouiller, on dit comment général, etc. Vous voyez, si un service militaire, ça permettrait de remettre l'église au milieu du village. Et ils me respectent et ils disent la police tous des salauds, etc. Mais vous, l'armée, ah, quand même, parce qu'ils ont des cousins, des frères, des sœurs qui sont dans l'armée, et ils voient que ils sont heureux et qu'ils font un travail intéressant, etc. Donc j'essaie de rencontrer cette population parce que pour comprendre comment on devient caïd aujourd'hui. Alors les narcotrafiquants, moi je les connais pas, ils sont très difficiles d'accès, et les islamistes encore plus. Mais dans cette population des cités, parce que moi je vais pas dans les banlieues, je vais dans les cités. Et d'ailleurs maintenant on me demande plus ou moins de pas y aller parce que. Donc, quand on me dit tout va bien, madame la marquise, et qu'on me dit faut plus y aller, il y a un truc qui m'échappe. Je constate qu'il y a une énergie là-dedans extraordinaire, et il y a une jeunesse incroyable. Je vais souvent au Mureau. Je vais raconter une anecdote récente. Je vais souvent au Mureau, et donc je suis resté en lien avec des gens des Mureaux. C'est là que
oui, sont fabriqués les.
C'est un peu mon laboratoire. Oui. Mureaux, il y a beaucoup de fichiers S. Hein. C'est quand oui. même un bon repère de gens sympathiques.
Mais il y a aussi Ariane Group qui a une grosse usine.
Il y a plein de choses bien. Et donc c'est le bon grain est livré. Et donc ils ont fait une soirée de vente aux enchères. L'association Vivre les Mureaux, pour avoir un peu d'argent pour continuer à fonctionner, parce que l'État ne les aide plus. Bon, quand je vois les subventions qu'on donne à beaucoup d'associations et que celle-là, on a coupé le robinet, je m'étonne. Enfin bon, passons. Dans cette vente aux enchères, il y avait un déjeuner avec le général de Villiers. Ces cons-là, ils ne me l'ont pas dit avant, je n'étais pas au courant. Donc j'y étais pas, on m'appelle et on me dit, voilà, formidable, ça a été le gros lot, 3 500 € pour venir déjeuner avec vous. Bon, quand j'ai dit ça à ma femme, elle était contente. Donc j'ai fait ce déjeuner il y a 10 jours. C'était un patron d'une boîte qui m'a invité avec des jeunes des Mureaux dans ce déjeuner. Et les jeunes, tout de suite, ils m'ont dit, mais nous, quand on arrive pour un emploi, on nous dit, vous êtes d'où? Des Mureaux. Ah, ça, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'idées préconçues. C'était des jeunes, d'ailleurs, absolument formidables, incroyables, issus de familles complètement explosées, parce que c'est souvent les mamans seules qui élèvent leurs enfants. Donc, il y a plein de choses à faire, plein de bonnes choses à faire. Il y a un réservoir incroyable. Mais maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas laisser la situation telle qu'elle est. Ce n'est plus possible. Elle ne fera que dégénérer encore un peu plus. Et j'explique dans mon livre un souci qui est le passage entre le maintien de l'ordre et l'action de guerre. Je l'ai vécu au Kosovo sur le pont de Mitrovica avec nos amis gendarmes. Et j'espère qu'on travaille sur tout ça. Parce que ça se dégrade. Les narcotrafiquants, etc., c'est pas des poètes. Ça tire à balles réelles. Il y a même des balles perdues, maintenant, dans certains quartiers. Donc, un moment, faut voir la réalité en face. Alors, dans 88 000 prisonniers aujourd'hui, pour 88 000 pour 62 000 places, etc., etc. Donc, il y a un moment, on peut plus continuer à faire vivre ce paquebot qui dérive. Il faut changer de cap. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce qu'on ne peut pas gagner une guerre vis-à-vis de l'extérieur et se protéger des menaces extérieures si, à l'intérieur, on est plein de fractures.
Alors, on va laisser le temps. Le temps passe, il faut qu'on arrête. On va laisser... Moi, j'encourage vraiment les lecteurs à regarder et à lire tout ce que vous évoquez dans la nécessité de l'urgence militaire, hein, en particulier la nécessité de redonner en quelque sorte un esprit, hein, et un esprit de défense. Vous dites les fractures de la société française, elles sont territoriales d'abord, sociales ensuite, intergénérationnelles enfin. Mais je voudrais qu'on termine par l'évocation d'un petit village en Vendée, vous voyez où je veux en venir, ça s'appelle Mouilleron-en-Parée. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prononcer d'ailleurs, mais comme je suis natif d'un petit peu plus au-dessus de la Vendée militaire, je sais qu'on dit Mouilleron-en-Parée. Ce sont deux grandes figures de l'histoire française du XXe siècle qui n'ont pas grand-chose en commun. On peut même dire que certains points pouvaient les opposer. Je vous laisse les présenter. Et pourquoi je voudrais qu'on termine là-dessus? Parce que vous dites ces deux personnages historiques. Vous faites aussi une référence au très beau livre de Lyautey qui s'appelle « Le rôle social du soldat ».
Hein, enfin, le rôle social de l'officier.
De l'officier, pardon. Je voudrais que vous nous disiez, à travers ces deux personnalités que vous allez nous évoquer, vous dites qu'ils avaient compris, tous les deux, qu'est-ce que c'était que la mission du chef.
Voilà. Oui. Mais j'ai été élevé dans cette double culture de Clémenceau et de Lattre. Les deux habitaient à Mouilleron-en-Parée. Les deux sont vendéens. Le bleu et le blanc, en quelque sorte. Et mon père a été sous les ordres du colonel de Lattre au 151e régiment d'infanterie à Metz.
Avant la deuxième guerre.
36-38. Oui. Et j'ai porté le bâton de maréchal de Lattre avec la maréchale en 73, en janvier 73. Tous les ans, en janvier, il y a l'anniversaire de la mort du maréchal de Lattre. Et j'ai eu cet honneur. Et en fait, moi, je suis né dans cette concorde entre deux opinions radicalement différentes, deux familles françaises dans le même village. Et dans ce terreau des guerres de Vendée, où les bleus et les blancs se sont opposés. L'armée a prolongé cette vision que j'avais par mon éducation, puisque dans l'armée, 25 000 jeunes rentrent par an et on en fait des soldats debout, capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême, quels qu'ils soient, garçons, filles, et quelles que soient leurs origines, on s'en fout pour la France. Et ensuite, troisième facteur, c'est le football. Je suis un passionné de football. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours joué au football. Ceux qui me connaissent bien le savent. Je ne sais pas si le général Clément Bollet est dans la salle. Bruno est un ami.
Il est occupé un peu en ce moment parce qu'il a une activité.
Et il le sait. Tous ceux qui m'ont connu jeune le savent. C'est une passion. Et en fait, il y a la partie sportive, mais c'est une passion parce que c'est le collectif. C'est l'équipe qui gagne. Le Paris Saint-Germain a mis des années à le comprendre. Et ils ont enfin compris, en prenant un entraîneur qui a privilégié le collectif, qui a viré les trois meilleurs attaquants du monde et qui a créé une équipe, et ils ont gagné la Champions League. Je vois des regards un peu hagards. Pour ceux qui connaissent pas le foot, tant pis pour vous. Et donc le collectif, le bien commun, la fraternité, la cohésion, l'esprit d'équipage, c'est le tankiste aussi qui parle, c'est pour moi l'essentiel. Et l'unité nationale, je me désespère de voir ces fractures, ces polémiques, cette violence dans notre pays, cette agressivité des gens partout, c'est incroyable. On a perdu la concorde, la place de la concorde, j'y vais souvent en Paris, la concorde. À l'intérieur, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Et puis, les militaires, nous, on est des hommes de paix. C'est pas les militaires qui déclenchent les guerres, c'est nous qui les faisons. Faut pas l'oublier. Et nous, on est des pacifiques, on n'est pas des pacifistes. Parce que les pacifistes, ils savent pas ce que veut dire le mot réarmement. Mais nous, on sait que si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est comme ça que la paix sera maintenue. On est des gens de paix. La concorde à l'intérieur, la paix à l'extérieur. C'est ça, ma philosophie de vie. C'est ce que m'a appris ce binôme. Clémenceau, l'union sacrée, Delattre, l'amalgame. Voilà. Alors après, j'ai rajouté...
Leclerc, à la fin du livre.
Leclerc, qui n'est pas un Vendéen.
Qui n'était pas le meilleur ami de Delattre, je crois.
Il ne pouvait pas se piffrer.
Voilà.
De caractère fort.
Et il a une très belle phrase, Leclerc. Dites-nous-la, parce que, quelque part, elle est dans le prolongement du serment.
Pour le service de la France, ne me dites pas que c'est impossible. Pour le service de la France, ne me dites pas que c'est impossible. J'ai mis cette phrase en exergue de mon livre, parce que, évidemment, j'entends tout de suite, mais mon général, vous rêvez 5 milliards par an pendant 10 ans pour reconstituer un modèle d'armée capable de faire la guerre. On en est incapable. Où voulez-vous qu'on prenne cet argent? Viens là, mon gars, je vais t'expliquer. Il va falloir un peu de courage. Mais c'est possible et c'est vraiment pas difficile. C'est pas compliqué. Voilà, il faudra du courage pour le faire. Mais vous avez raison, j'aime bien la façon dont vous appréhendez cette notion qui m'est le plus cher que j'ai dans mes tripes, c'est-à-dire l'unité nationale. Vous voyez, j'ai dit un jour dans une émission, si je faisais de la politique, mon slogan serait « Mon parti, c'est la France ». Pas de peau, je veux pas en faire. Mais la France. Et la France, chez moi, c'est pas un marchepied. Vous voyez, pour grimper. La France, c'est ma finalité. C'est au-dessus de moi, bien plus grand que moi. Et c'est ce que je regarde pour moi, me hisser au niveau de ceux qui ont fait la France, qui est un grand pays. La France est une personne. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour le succès des armes de la France. Voilà, jusqu'à mon dernier souffle. C'est cette mission que je me suis donnée. Et tant que je serai en état physique de le faire, je le ferai. C'était très agréable de venir ici, chez Mola. C'est devenu une tradition.
C'est vrai.
Cet entretien, tous les deux. Je m'en réjouis. Mola, c'est quelque chose de grand. Pour ceux qui sont là, sachez-le et dites-le à Bordeaux. C'est extraordinaire, Mola. C'est la culture française. C'est magnifique. Et ces rencontres incroyables, presque tous les soirs, vous me disiez, c'est exceptionnel pour la culture française. La littérature, les éditeurs, les libraires, cette population que j'ai appris à connaître et à aimer, c'est fantastique. Quand je pense qu'on les a pas mis en commerce essentiel, mais c'est essentiel pour la France, ce que fait la maison Mola ici.
Et puis, on va terminer, vous citez cette phrase de Kissinger, qui cite Churchill, étudiez l'histoire. Merci beaucoup, général. Mon général.
Merci à vous.
Pierre de Villiers.